67e numéro, je reçois par téléphone les participants de Terre, Mer, Air, Jocelyn, Victor et Maxime. C'est bien ça, Jocelyn ?
Oui, c'est ça.
D'accord.
C'est
ça. Alors, vous allez un peu nous expliquer. Alors, on vous prend par téléphone parce qu'en fait, vous faites un itinéraire à travers la France. Vous êtes à Lyon, c'est ça ?
En ce moment-là, on est arrivé sur Grenoble même.
Grenoble, d'accord. Parce que, en fait, vous avez un site, on va tout de suite dire les coordonnées, ça s'appelle viable-et-enviable.fr, c'est bien ça ?
Ouais, c'est bien ça.
Mais alors, c'est pas très commode sur votre site, là, vous êtes de bons cyclistes, vous n'êtes pas l'aide d'être très, très fanat sur Internet, parce qu'on n'arrive pas bien à comprendre comment ça se passe. Il y a une carte... Expliquez-nous ce que vous faites exactement.
Du coup, dans la pratique, on est parti à vélo début octobre.
Ouais.
Sur les routes de France, à la rencontre donc de projets qui avaient un sens pour nous par rapport au constat qu'on a de la société actuelle et notamment du coup de notre métier d'ingénieur qu'on avait avant.
Ouais.
Et donc, on n'a pas de parcours défini. On n'a pas de.
D'accord. C'est pour ça qu'on voit pas de carte avec un trajet.
Et du coup, la carte, elle est uniquement une fois que l'on a réalisé le parcours.
D'accord.
On l'a sur le site, un peu plus bas sur la page d'accueil.
Donc c'est fait exprès. C'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est parce que c'est votre but de travailler sur une carte. Allez, je dis pas ça méchamment. Ouais. Alors, on va d'abord essayer de faire votre connaissance parce que je pense quelque chose qui est intéressant dans votre travail, c'est vos parcours. Alors, vous, Jocelyn, vous êtes quoi alors ? Dites-nous en quelques minutes.
Moi, je suis un enfant qui a grandi à Saint-Malo, du coup, plutôt sur le bord de mer, plutôt dans un milieu privilégié. Mmh. Et j'ai fait derrière une formation dans la construction.
Dans la construction.
Dans le technique et la gestion. Ouais,
une école d'ingénieur de...
C'est ça, du coup. J'ai fini mon cursus, j'avais commencé par un DUT, et après j'ai fait une école d'ingénieur de 3 ans en alternance.
D'accord.
Pour une filiale... régional de Vinci, en Bretagne.
D'accord.
Et du coup, à la suite de cette alternance, je souhaitais un petit peu, dans la démarche du projet, élargir la vision que j'avais de mon métier, de la technique, et voir un petit peu qu'est-ce qui existait en dehors de ce que nous, on nous propose, en tout cas, quand on est dans le cursus scolaire classique.
D'accord. Alors, attends, on va aller plus loin, mais on va d'abord faire connaissance de vos deux collègues. Qui continue ?
J'y vais alors. Donc, donc moi, c'est Maxime. Moi, j'ai vécu mon enfance donc dans le nord de l'Isère, dans la campagne nord-iséroise. Mmh. Et j'ai du coup aussi, moi, après, donc j'ai fait un DUT, et puis après, je me suis orienté dans une école d'ingénieur à Grenoble, où on fait plus de, on est tout ce qui concerne sur le génie électrique et énergétique. Mmh. Donc parce que les énergies ça m'intéresse quoi. Comment on fait l'électricité, les moyens de production avec tous les barrages qu'on a à Grenoble, etc. Et donc j'ai effectué cette école d'ingénieur en alternance donc j'ai dans une entreprise donc qui s'appelle Schneider Electric, un gros groupe français.
Oui d'accord, c'est pas des petites boîtes vos Vinci ou Schneider.
Non, plutôt des gros groupes. Et du coup, cette alternance beaucoup plus. D'un point de vue technique, je dirais, où je me suis plutôt épanoui techniquement. Mais par contre, j'étais confronté à une perte de sens, quoi, pour qui je travaille, pour qui je dépense mon énergie, pour qui je me lève tous les matins. Quel sens ça me donne dans ma vie? Et donc, notamment, j'ai aussi fait, durant ce cursus, un constat écologique du monde et puis de la France. Et du coup, je me suis dit, comment reconnecter avec tout ça, avec mes convictions. Et c'est pour ça que ce tour en vélo, ça m'a paru, donc avec deux bons copains, ça m'a paru être un bon moyen de répondre à ces questions en allant rencontrer toutes ces personnes, tous ces projets, tous ces lieux qui à mes yeux, sont importants. Quoi.
D'accord. Je vous coupe parce qu'on va d'abord faire la connaissance avec Victor, puis ensuite on va approfondir parce que je vois effectivement, comme je m'en doutais, qu'il y a une certaine convergence entre vos parcours. Alors Victor.
Alors du coup, moi j'ai grandi principalement en Bretagne, même si je suis né à Grenoble, donc je suis revenu pour faire mon école à Grenoble de manière par un concours de circonstances. Du coup j'ai aussi fait un DUT comme mes deux comparses, qui m'ont poussé à vouloir me spécialiser dans les énergies renouvelables en pensant que c'était une solution pour un futur enviable.
Ouais.
Et Donc je me suis formé à ça dans une école d'ingénieurs, la même que Maxime. En alternance aussi dans un autre gros groupe qui était avant Alstom, puis qui est devenu General Electric.
Ah oui, vous ne faites pas dans le petit, hein?
Alors, on ne fait pas dans le petit, on n'a pas fait dans le petit.
D'accord.
Et ça m'a permis de constater que les appétits économiques de certains acteurs comme les États-Unis ou rendaient en fait la vie concrète des gens plutôt difficile, notamment suite à des plans sociaux qui ont eu lieu à chez Alstom, etc. Et donc ça a confirmé, comme disait Maxime, un gros manque de sens dans ce à quoi on participe, quoi. Mmh. Et l'envie d'aller voir à quelle société autre on pouvait participer avec notre énergie et notre temps que à celle de la course à la croissance et à celle du profit de certains. Quoi.
Voilà. Alors, si je comprends bien, là, c'est bien, maintenant, on vous connaît. Comment vous êtes rencontrés?
Je vais prendre la parole parce que...
Oui, mais arrangez-vous entre vous trois. Hein,
ouais, j'ai rencontré Jocelyn, on s'est rencontrés avec Jocelyn au lycée, en première, on dit en première, ouais. Et après, j'ai rencontré Maxime en alternance, on était dans la même classe.
Mmh.
Et du coup, avec Jocelyn, on a gardé contact à distance pendant du lycée jusqu'à la fin de l'école d'ingé. Et puis avec Maxime, on a passé nos 3 ans, on peut dire, quasiment quotidiennement ensemble, quoi.
D'accord. Et ça veut dire que votre projet, il a mûri pendant que vous étiez donc des jeunes ingénieurs au travail et que vous êtes dit, il faut qu'on fasse autre chose.
Oui, c'est ça, complètement. Je dirais dans la dernière année ou les 6 derniers mois où le projet était plus clair, mmh. et on a justement pu renseigner typiquement la carte dont vous parliez tout à l'heure, avec des points où c'est des gens chez qui on avait envie de rencontrer, quoi, d'aller voir.
D'accord. Alors, si je dis que, en fait, vous faites partie de cette catégorie de jeunes diplômés qui commencent à travailler et qui posent des problèmes aux directions des ressources humaines des grandes boîtes parce que ils posent des problèmes éthiques sur là où ils veulent travailler.
Est-ce qu'on pose des problèmes aux grandes boîtes
c'est ce qu'on lit un peu partout, hein.
Tout à fait. En fait, ça me donne envie de répondre avec un manifeste qui est déjà paru, là, qui s'appelle le manifeste étudiant du réveil écologique.
Voilà, c'est des choses comme ça. Je crois que j'ai déjà lu ce texte-là.
Dont on est quasiment tous signataires, il me semble, dans le projet, mm-hmm. qui tend aussi à rassembler une voix qui dit aux soi-disant décideurs d'aujourd'hui, mm-hmm. Le monde que vous nous proposez à la sortie d'école et le monde que vous proposez au monde en général ne correspond plus à la vision qu'on a du monde et du futur. Ça pose problème, ouais, je pense que ça va poser problème, et c'est intéressant, ce sera intéressant de suivre comment est-ce que les entreprises vont essayer de s'adapter à ça, et est-ce qu'elles sont toujours en passe d'être utiles dans un monde du bien commun, par exemple.
Parce que moi, d'après ce que je lis, et d'après les gens que je rencontre un peu partout, dans des débats et tout ça, il semble que ce phénomène soit pas du tout marginal, que même peut-être même la majorité des gens qui sont dans le système productif sont pas prêts à accepter ce que leurs aînés ont accepté. Vous confirmez ?
Aujourd'hui, nous, par rapport aux rencontres qu'on a fait, on a plutôt été témoins aussi de ce changement d'ordre, de cette prise de conscience et de cette envie. Après, on pense avoir quand même un certain biais.
Oui, c'est ça. Vous allez un peu plus loin que vos collègues.
Plus loin, en tout cas, on essaie de le faire avec une manière qui nous convienne.
Mmh.
La difficulté qu'on en a, c'est quand même à essayer de garder justement une certaine ouverture sur différents types de personnes, différentes cultures, différents horizons sociaux. Et où là, du coup, dans le cercle, on va dire que nous, on a eu professionnellement et scolairement, pas mal de personnes se posaient des questions, mais... est-ce que quand on va dans d'autres villes de France, dans d'autres formations, est-ce que les personnes se posent la même question? Du coup, on ne sait pas. On pense aussi à avoir cette prise de conscience générale, mais on essaye, du coup, c'est un des enjeux du voyage, de confirmer que c'est, ou en tout cas de voir comment ça se passe aussi.
D'accord.
Avec d'autres personnes.
Et alors, donc la carte qui est sur votre site, des endroits où vous êtes déjà passé ou de ceux où vous voulez passer, donc ça, vous avez construit ça un peu sur Internet, en prenant des contacts par téléphone. Comment vous avez fait pour déterminer ces endroits?
En fait, surtout, en tout cas, moi, personnellement, les points que j'ai renseignés, c'est soit des gens que je connaissais, ou sinon sur des articles de différents journaux.
D'accord.
Qui font état d'un endroit où les gens se bougent, ou d'une ville qui change les choses, et du coup, on a envie d'aller les voir, donc boum, on met un point sur la carte, quoi.
D'accord.
Et la carte est collaborative dans le sens où c'est une carte qui est basée sur uniquement des outils open source. dans un sens, mmh. et qui nous permet à tous les trois d'avoir des accès éditeurs sur la carte, donc de renseigner chacun de notre côté des points qui nous semblent intéressants. Ce qui du coup complète aussi l'ouverture qu'on a, c'est-à-dire que Jocelyn, Maxime ou moi, on n'a pas les mêmes sensibilités à certains projets, ce qui nous permet en fait tous les trois de se diversifier. Mmh. Et on l'a mise en libre accès public pour que les gens puissent aussi voir ce qui se passe près de chez eux et éventuellement suivre où est-ce qu'on est et qu'est-ce qui se passe en France D'accord. et en Europe.
Et alors, est-ce que les gens peuvent vous suggérer des endroits où aller ?
C'est même très recommandé. Ouais. On a laissé du coup un mail de contact. Du coup, sur en bas du site, et l'objectif c'est que justement chaque personne qui pense avoir des sujets qui lui intéressent, des lieux qui semblent intéressants ou qui souhaite nous rencontrer ou autre ou discuter avec nous, sont les bienvenus pour nous suggérer des lieux.
D'accord. Et donc jusqu'à maintenant, dans les endroits que vous avez repérés, il y en a beaucoup qui vous ont été suggérés comme ça par des gens qui ont pris contact sur votre site.
Un petit peu, mais autrement c'est plutôt des suggestions en direct avec les personnes.
Qui, d'accord. Voilà,
nous oui. rencontrer du bouche à oreille.
Ouais. Oui. On a croisé. Je vous suggère aussi d'écouter attentivement Cause Commune, parce que c'est une radio où il y a beaucoup de projets qui pourraient vous intéresser, d'endroits où vous pouvez aller.
Et bien entendu,
prochainement, très probablement les prochains podcasts qui passeront dans les journées difficiles de vent de face, dans les écouteurs.
D'accord. Bon, on va faire une pause musicale et on ira plus en détail après.
Cause commune.
On sort en trombe, en ombre, on se déverse en plaine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoul ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des youyous stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd, mourir dans une clairière sans treillis pour ce pays. L'affiche et couleur sang, et Manouchian vient pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde, il a fécondé et ta grand-mère, on investit brognard, le dos mûr comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne. On veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux armes miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout, même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans et limé par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a plus 20 ans mais on n'en aura jamais 60, car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. On fait de nous des enfants pour nous interdire des luttes. Donc mon pan Peter Pan va redevenir adulte. On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage, et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent. À leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit. On occupe du terrain, être indigné ça va de soi. Angela qui font une choix pendant que ton papa est bien là. On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica. Pharmacodépendant des OGM pour nous doper. J'ai recraché l'assiette, monté le cheval et galopé. Braqué un RER, diligence, la pache de Belleville. Viendra crier vengeance comme Balavoine arrive en ville. Ils veulent nous assigner des places et nous faire saigner. Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer. Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main de montoir, on ne laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés. On arrivera de l'aube en éruption spontanée.
Rayon libre, la 67e émission, je reçois Jocelyn, Victor et Maxime de Terre Air Mer. Alors, on va maintenant déjà, on va parler plus précisément de votre voyage, parce que, comme vous le savez, c'est une émission où on parle de vélo, et jusqu'à maintenant, on n'en a pas du tout parlé. Alors moi, ça ne m'embête pas, parce que ça arrive assez souvent qu'on traite un peu en détail tout ce qui va autour. Mais donc, parlez-nous du vélo, comment ça vous est venu l'idée de faire tout ça à vélo? Est-ce que ça fait partie de votre projet?
Complètement. Nous, l'envie que l'on avait, du coup, c'était déjà de prendre notre temps, initialement. Mmh. On voulait s'ouvrir, on voulait voir d'autres méthodes de fonctionnement que celles qu'on fait quotidiennement. Et pour ça, faire le tour du monde avec deux escales en avion, ça ne nous semblait pas très intéressant ni pertinent vis-à-vis du constat écologique que l'on a. Et, Et donc le vélo, c'est trouver à la fois sur le plan humain, nous personnellement, hein, quelque chose qu'on trouvait intéressant de nous donner pour voyager, sur le plan aussi rythmique, le fait de pouvoir aller à une vitesse de voyage qui soit palpable pour nous, où on sente le voyage vraiment se faire, la distance du coup et les paysages se défiler. Et du coup sur le plan écologique, où c'est un moyen de se déplacer, décarboné et qui est accessible à tous, techniquement et assez basique. Voilà.
D'accord. Et alors, ce que j'ai pas compris. Oui, ce que j'ai pas compris. Votre voyage, vous le faites en continu ou c'est par est-ce que vous retournez chez vous de temps en temps ou est-ce que vous êtes hors de chez vous depuis octobre?
Alors, on est parti depuis octobre du coup. Ouais. Et on a roulé du coup jusqu'à Grenoble où ça va faire un mois et demi qu'on est posé à Grenoble. Où là où on se pose plus, parce que Grenoble avec Victor, c'est notre ville, copains et nos copines aussi à Grenoble. Donc du coup, on reste, on fait une grosse pause à Grenoble, on va rester ici jusqu'à fin janvier avant de repartir du coup plus pour en direction du sud ou sud-ouest de la France.
D'accord.
Et sinon, dans le projet, du coup, plus à Victor et à moi, ça nous est arrivé de nous éclipser pendant quelques jours, je dirais tous les mois et demi, pour justement rentrer à Grenoble. Voilà.
D'accord. A priori, en train.
Oui, enfin, complètement.
Dans le but toujours d'être dans le décarboné, de rester cohérent avec ce qu'on voudrait voir arriver dans le monde.
D'accord, mais en laissant votre vélo en garde au troisième larron, c'est ça?
Ouais, souvent c'était comme ça. Ouais.
D'accord.
Après, l'avantage d'être trois, c'est qu'il y en a un qui peut partir pendant que les deux continuent. Voilà. Donc c'est pas mal.
Non, mais j'ai compris. Ce que je veux dire, c'est que pour vous, le vélo, c'est un mode de déplacement. C'est pas une grande randonnée à vélo comme certains en font, où c'est le fondement. Vous, pour vous, c'est vraiment un outil qui vous permet de vous déplacer d'un endroit à l'autre. Et j'aime bien la manière dont vous parlez du rythme. Effectivement, quand on est sur un vélo, même sur de courtes distances, on vit à un autre rythme. Alors, parmi les projets que je vais vous demander de nous en décrire un petit peu, c'est des endroits plus spécifiques où vous êtes allé. Est-ce qu'il y en a justement où le vélo fait partie du projet lui-même?
Où le projet est fondateur en soi et central autour d'un lieu, pas vraiment.
Il n'y en a pas. Non, c'est pas grave. Hein. Alors, décrivez-moi quelques-uns des projets qui vous paraît intéressant et dont vous pensez que ça peut intéresser nos auditeurs.
On peut peut-être parler du Lotte Club.
Le Lotte Club ou le Champ Commun. Le Lotte Club, c'est une association qui a vocation à développer les low-tech, donc qui sont les basses technologies, par opposition aux hautes technologies qui sont ce qu'elles sont. Les low-tech se définissent comme étant des technologies qui sont sobres, faciles à construire et à réparer, et qui répondent à des besoins primaires.
Oui, mais alors, excusez-moi, mais le vélo, ça en fait bien partie quand même, non?
Le vélo en fait partie, en effet, le vélo en fait partie, mais pas de manière centrale, mais il y a beaucoup de machines qui se développent autour du vélo, notamment les petites machines qui permettent de faire du perçage, de faire des machines à laver, de faire toute forme d'usinage un peu puissance sans électricité.
Ouais.
Donc en effet, le vélo fait partie de la technologie qu'on peut voir au Lotec Lab. Ouais.
Je peux même vous dire quelque chose, c'est qu'un bon nombre des cyclistes, même s'ils n'appellent pas ça forcément au Lotec, c'est ça qui les attire, c'est-à-dire d'avoir un objet qu'on peut pour la plupart soi-même réparer pour l'essentiel, entretenir sans avoir besoin de faire appel à des gens, et puis qui réclame pas d'énergie autre que la sienne propre. Il y a beaucoup de cyclistes que ça attire. Hein. Et alors, donc là, ce que j'ai pas compris, c'est un endroit. L'endroit dont vous parlez, c'est quoi alors? C'est où?
Donc là, celui-ci, on est passé du coup à Concarneau. Qui est le lieu qui a pu naître à Concarneau, du coup, en Bretagne.
Ah, à Concarneau, oui.
Ouais.
Et c'est quoi, alors décrivez-moi.
C'est un petit peu le QG. Ils sont dans un laboratoire, un incubateur de projets Explore, qui sont dans une dynamique environnementale positive.
Ouais.
Et donc là, sur Concarneau, ils organisent un petit peu toute la communauté du low-tech qui n'a pas pour but de délocaliser
dans
une ville, mais plutôt essaimer un petit peu partout en France et dans le monde.
Alors, et qu'est-ce que vous appelez organiser alors? Ça veut dire quoi? Ils organisent des rencontres, des choses comme ça, des échanges?
Ça veut dire qu'il y a des communautés qui se sont créées, qui se sont disséminées en ville, dans principalement dans, dans des villes notamment Grenoble, dans lesquelles on fait partie du Low-Tech Lab notamment. Mmh. Et en fait, il s'agit d'organiser et de coordonner des actions communes pour essayer d'être intelligent collectivement et pas faire chacun dans son coin la même chose, quoi.
D'accord.
Là, donc il y a une forme de QG qui a un peu le dépôt des brevets. En fait, ça a été lancé par un ingénieur aussi qui s'appelle Corentin de Châtel-Perron, qui est pour le coup un voyageur explorateur assez fabuleux, qui est en ce moment en train de partir à l'autre bout du monde avec un bateau à voile pour rechercher des low-tech. Et en France, on s'attache à essayer de trouver des low-tech adaptés à chacun des climats français, donc déclinés en fonction des villes. Et il s'agit de coordonner tout ça pour mettre les moyens où est-ce qu'il y a besoin de les mettre et créer une communauté qui arrive à se souder, quoi.
D'accord. Je vous signale d'ailleurs qu'à Concarneau, il y a eu il y a quelques années ce qu'on appelle la Vélorution universelle, c'est-à-dire un rassemblement annuel des cyclistes et qui s'était passé justement à Concarneau. Alors, il y a peut-être un rapport avec le... avec la ville. Alors, parlez-moi d'un autre des endroits où vous êtes allé.
Eh ben, on est allé dans un lieu qui s'appelle, c'est à Augan, c'est aussi en Bretagne, ça s'appelle le Champ Commun. C'est en fait un groupe de personnes donc qui Augan, c'est une ville qui doit faire 1500 habitants, 1700.
Ouais.
Et donc c'est un groupe de personnes qui a racheté un commerce comment dire qui allait fermer quoi, qui fermait ses portes et qui vendait le fonds de commerce. Et le commerce c'était un qui faisait bar et en même temps vente d'électroménager. Donc un commerce qui datait de... qui est plutôt, je dirais, ancien temps, quoi.
Ouais.
Et donc un groupe de personnes l'a racheté pour le transformer en épicerie, relais postal, donc parce que la poste du village avait fermé en relais postal. Mmh. Un bar aussi, une microbrasserie, donc ils brassent leur propre bière qui vendent dans le bar. Maintenant, ils font même chambre d'hôte, restauration, et donc voilà, donc toutes ces activités. Donc c'est une SKIC. Donc dans une coopérative, ils embauchent 8 personnes et donc c'est ce qui en fait le plus gros employeur de la ville.
Ouais.
Donc ils ont réussi à créer dans tous ces villages de France, dans toutes ces villes de France qui sont en train où on voit le nombre de bars qui diminue, le nombre de liens sociaux entre les gens, ils ont réussi à créer un nouveau modèle avec quand même 140 sociétaires. Donc c'est-à-dire 140 personnes qui ont investi de l'argent dans le projet. 140 qui sont pour la plupart habitants de la ville, donc ont investi de l'argent dans ce projet pour lui donner vie et finalement pour redonner vie à leur ville.
Donc c'est un moyen de redonner vie à des villages qui se meurent, hein, c'est ça ?
C'est ça, et malheureusement c'est aussi un moyen qu'ont trouvé les citoyens pour pallier le manque de services publics dans dans les systèmes ruraux, quoi.
D'accord, c'est une initiative des habitants ou la mairie est partante là-dedans, je suppose quand même, non ?
Alors, sur 700 000 euros de chiffre d'affaires, la mairie a fait l'année dernière 1 000 ou 2 000 euros de ce chiffre d'affaires. Donc, la mairie est là, mais elle n'est pas forcément très présente pour aider. Par contre, c'est un collectif de 40 habitants à la base en 2008 qui a créé un collectif, en fait, pour se dire qu'est-ce qu'on fait de ce lieu et qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble et dans quelles conditions on veut vivre ensemble. Et à partir de cette question-là, a découlé l'envie d'avoir une épicerie pour pas aller dans les supermarchés. Il y a 60 producteurs locaux qui alimentent cette épicerie. Il y a une réduction, enfin il y a un jeu de marge qui permet d'essayer de faire rendre accessible des produits bio et locaux face aux produits de grande distribution. Et ça fait un vrai lien social pour les personnes âgées, pour les personnes tout court. Et donc c'est à la fois très réjouissant de voir ça et à la fois c'est très désolant de voir que ça répond à un problème de manque de services publics et que c'est le cas en banlieue, dans les systèmes ruraux, et qu'on s'en rend bien compte en vélo, là, pour le coup, quand on traverse des villages.
Absolument, là, on est à ras de terre. Hein. Mais ce qui m'étonne un peu, c'est que... Est-ce que c'est pas à la mairie de prendre l'initiative de faire ça ?
Eh ben, on est d'accord. Parce que c'est pas à l'État de résoudre ces problèmes, enfin, d'essayer de résoudre ces problèmes-là. Je pense que ça pourrait être une idée que d'envisager des politiques publiques qui soient plus adaptées à ces inégalités-là, ouais.
Oui, parce que il me semble bien quand même avoir vu des reportages d'endroits où c'est la mairie qui prend l'initiative de... Enfin, en particulier justement sur l'idée de faire un commerce, bar, épicerie, ça va, en général ça va moins loin que ce que vous nous décrivez, mais il me semble que c'est une initiative qui existe.
Pour aller dans votre sens, on est passé à Langouette le premier jour, donc Langouette, une ville bretonne, un village breton plutôt, dont le maire a fait parler de lui récemment pour sa position contre les pesticides.
Ah oui, oui, oui.
Et lui, c'est la mairie qui embauche deux permaculteurs en ce moment pour rendre la cantine 100% autonome.
Mmh.
On peut parler de Grenoble, notre ville de cœur, où la mairie a quand même fait beaucoup pour l'écologie, pour essayer de rendre une ville pour les vélos. Mmh. Ah ouais, très, oui. Très beau travail pour les vélos, les autoroutes à vélo, etc.
Oui, absolument.
Donc la mairie peut jouer un rôle, mais les citoyens ont ce pouvoir encore aujourd'hui, ouais, de créer des initiatives qu'ils souhaitent voir naître, quoi.
Bah, surtout comme on approche des élections municipales, ça peut être aussi l'occasion pour des citoyens de s'organiser pour être à la mairie et faire ça, non ?
Bien sûr.
C'est pas le cas, non ? Par exemple, dans la commune dont vous parliez, là, les gens qui sont regroupés, ils ont pas envie de mener une liste pour prendre la mairie ?
Vous avez ce projet-là, en tout cas, quand on les avait croisés, on n'a pas de nouvelles dernièrement de savoir comment ça a évolué. Mais si ils ont et ils avaient eu ce projet-là, après ça n'avait pas été si simple apparemment. Ça avait pas...
Oui, mais enfin, ça me paraît quand même.
La première fois, mais en tout cas, ils essayent de s'y investir.
Oui. Ça me paraît une initiative qui correspond aux prérogatives naturelles d'une mairie. Bon, eh bien, je vous remercie. Donc, j'étais avec Jocelyn, Victor et Maxime du projet Terre, Mer, Air. On va redonner le nom de votre site. viable-et-enviable.fr et je vous suggère d'aller voir, effectivement, de leur écrire si vous avez des projets à leur proposer, d'endroits où ils puissent aller. Maintenant, vous repartez quand ?
Voilà, ça va être certainement sur début février.
D'accord, et dans quelle direction ?
Pays Basque. Pays Basque, sud de la France, avec tout ce qui nous connecte au Pays Basque sur la route. Et donc, voilà, s'il y a des personnes qui ont des... Ouais. Des contacts intéressants dans les environs.
Autour de la Rhône, Sud-Méditerranée et Pays Basque, Pyrénées, on est tout à fait preneurs. Et puis même partout en France ou en Europe, les projets de voyage de chacun ne vont pas suffire pour aller voir tout le monde. Donc n'hésitez vraiment pas.
Très bien, je vous remercie.
Merci.
Merci.
Au revoir. Bonne journée.